laisser tout doucement une vague, une onde dans votre colonne vertébrale se libérer jusqu'au sommet du crâne.
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma, de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Le yoga n'est pas un sport, n'en déplaise à ceux qui se penchent sur leur tapis pour s'étirer les muscles et affiner leur taille. Mais ce n'est pas non plus une manière de retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit. À vous, qui pensez que le yoga est la voie la plus courte vers le bien-être, une détente du corps qui conduit à une paix de l'âme, une succession de postures acrobatiques dont le secret est bien gardé par des textes sacrés, sachez qu'il n'en est rien et que le yoga, bien compris, vise non pas à mieux vivre, mais à écourter au maximum la vie ici-bas. Avec nous en studio pour nous révéler la vérité du yoga aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Angot. Bonjour à vous.
Bonjour.
Inédit, du lundi au vendredi. Le yoga Vinyasa est un yoga dynamique ancestral. Grâce à nos séances, éliminez le stress, affinez votre silhouette et retrouvez votre paix intérieure et votre sérénité. Inédit, du lundi au vendredi à 18h30, Namasté saison 3 et 4, et le week-end à 10h30.
Michel Angot, vous êtes grammairien, philologue, vous avez enseigné le sanskrit et la littérature sanskrite à l'université de Paris 10, Nanterre, puis à l'INALCO, et on vous doit une édition, traduction et présentation du Yoga Sutra de Patanjali, aux belles lettres, paru en 2008, puis de nouveau en 2012, un ouvrage magnifique, orangé, la couleur du vêtement des sadhus indiens, on y reviendra, avec un petit sceau d'or, vous nous en direz la signification. Finalement, ce que le yoga est devenu, la pub, on a entendu pour une chaîne de télévision qui propose des cours tous les jours de yoga pour affiner la taille et retrouver son bien-être, n'a rien à voir avec ce que le yoga est à l'origine, Michel Angot.
Oui, tout à fait. On peut commencer par dire qu'à l'intérieur du yoga moderne, l'expression est de ma collègue et amie Elisabeth de Michelis, qui a écrit un livre sur ce sujet, il y a de tout. Il y a des choses qui sont excellentes, il y a des choses qui sont, comme on l'a entendu, un peu ridicules ou naïves, etc. Mais il y a 20 millions environ d'Américains qui pratiquent ce qu'ils nomment le yoga, il y a 2 à 3 millions de Français qui pratiquent ce qu'ils appellent le yoga, et tout ceci c'est une création moderne, fondamentalement c'est une création moderne, qui date du début du XXe siècle, à partir de l'enseignement de Vivekananda. Vivekananda, c'est un homme indien, d'origine indienne, qui est venu aux États-Unis et qui a joué... Il a été le premier gourou, vous savez, le premier exportateur de spiritualité indienne en Occident.
Gourou et ça, au sens péjoratif du terme.
Au sens neutre, hein, on va pas dire, je peux pas dire que j'ai une grande tendresse envers Vivekananda, mais disons que c'était un personnage à l'articulation du temps, vous voyez, il avait une une partie de son esprit qui était encore pénétrée de la grande tradition sanskrite, et puis il s'inscrivait dans la volonté de donner à ce nouveau pays qu'était l'Inde une place, et une place la seule qu'ils conçoivent, qu'ils entendent, c'est-à-dire la première. L'Inde veut être, a toujours voulu être le gourou du monde, et dénonce, parce que ce n'est pas le cas, dénonce les différents complots dont elle est victime en fonction de cela. Mais c'est une espérance qui est au cœur de beaucoup d'Indiens. Mais ça, c'est l'enseignement de Vivekananda. À partir de là, ce qu'on a nommé yoga, ce qu'il a nommé yoga, a été, s'est diffusé, a été surtout créé. C'est une création. C'est une création mondiale, une création autant de Vivekananda que des différents professeurs qui ont inventé ce qu'aujourd'hui on appelle yoga.
Et qui aujourd'hui s'apparente à un sport alors qu'il n'en est rien.
Eh bien, il s'apparente à un sport dans certains cours. J'ai travaillé aux États-Unis avec dans des cours de yoga où vous aviez beaucoup de femmes parce que c'est une pratique souvent très féminine, avec des professeurs qui sont masculins, d'ailleurs, souvent, pas toujours, mais c'est souvent le cas. C'était des jeunes gens, ou des moins jeunes, mais en parfaite santé, qui voulaient conserver la jeunesse, qui voulaient avoir un corps bien fait, rester vivant le plus longtemps possible. Disons des aspirations qui sont largement partagées dans la société contemporaine. Et là, on peut dire qu'il y avait des formes de yoga sont de la nature gymnique, acrobatique, sportive. Vous voyez, des postures que moi-même j'aurais bien été incapable de faire parce que premièrement ça m'intéressait pas, puis je n'avais pas le corps. Vous voyez, c'était vraiment un yoga extrêmement dynamique. Mais le mot yoga n'a à ce moment-là, vous voyez, c'est un mot commode pour désigner quelque chose qui n'a rien à voir.
Alors dites-nous justement, ça c'est pour le yoga moderne. Oui. Que signifie le yoga à l'origine, puisqu'il y a une origine.
Voilà, il y a une origine. Il y a une origine qui, comme c'est souvent le cas en Asie du Sud, vous remarquerez que je ne prononce pas le mot Inde, qui se perd dans, comme on dit, dans la nuit des temps. On ne sait pas très bien comment ça s'est formé. Vous voyez, il y a eu l'enseignement de Gautama qu'on a fini par nommer le Bouddha, c'est une épithète, ça veut dire celui qui est éveillé. On dit souvent comme ça, une meilleure. Il y a d'autres traductions, mais voilà, celui qui est. Il a dû pratiquer quelque chose qui ne nommait pas yoga. Parce qu'il ne connaissait pas le sanskrit, parce qu'il n'était pas un brahmane et que les gens du sanskrit n'étaient pas encore arrivés dans son pays. Mais dans la région où il vivait, une idéologie et une pratique que l'on pourrait nommer yoga existaient donc vers le 6e siècle avant Jésus-Christ.
Qui consistait en quoi ?
Ben écoutez, de ce que l'on sait, c'est que monsieur Gautama Shakyamuni est allé tout seul, avec quelques compagnons d'ascèse, et qu'il a cherché une méthode pour résoudre le problème qui était le leur, le problème philosophique et moral, éthique, enfin, le problème qui était celui de leur temps, mettre un terme à la souffrance. C'était ça, le but. À peu près comme tout ce qui est devenu ensuite philosophie. Mais lui n'était pas dans la philosophie, il était dans la pratique, et il s'opposait d'ailleurs de manière très claire, il y a des textes qu'on suppose être de lui, où il s'oppose nettement à tout enseignement métaphysique, philosophique.
Mettre un terme à la souffrance du corps ou de l'âme ?
À la souffrance.
En général.
En général.
La distinction n'est pas faite.
Alors, faut voir ce qu'il dit, ce qu'il met derrière le mot qu'ensuite on a mis en sanskrit durkham. Durkham, souffrance, ça va de la tristesse. Vous pouvez dire en sanskrit ram durkham, je suis triste. Vous voyez, le durkham, c'est ce manque. Olivier Lacombe disait que la meilleure traduction de Amdurkam, c'est le fait de. On la trouve dans la Bible quand on dit tout est vanité, tout est vain. Vous voyez, tout est tout manque. Il y a un manque. Alors c'est pas la souffrance au sens physiologique seulement. C'est pas seulement la souffrance psychologique. C'est ce manque à être qui est la condition humaine générale que vivaient ces hommes et ces femmes dans ce temps. C'est à cela qu'il a voulu mettre un terme. Et la solution qu'il a trouvée, une solution qui est la solution du yoga, c'était de mettre un terme à l'expérience humaine dans ce corps, avec ce corps, et c'est ce que ensuite, dans le texte fondateur du yoga, qui est le Yoga Sutra, c'est ce à quoi on a essayé de, ce qu'on a essayé de réaliser. Hein?
Les âmes individuelles sont prisonnières des heurts et des malheurs qui les affectent en ce monde. Pour les délivrer du pouvoir de l'illusion, il faut leur donner la connaissance du Brahman. Grâce à quoi l'individu n'est plus affecté par la maladie, ni par la vieillesse, ni par la mort, et ne risque plus de renaître. Cette connaissance est difficile à acquérir, mais elle est le bateau qui permet de franchir le fleuve des renaissances. L'âme individuelle qui dans chaque être est captive du monde retrouve sa vraie nature d'Atman lorsqu'elle est libérée des entraves que sont le désir, la colère, la peur, l'égarement, la concupiscence, l'orgueil, la passion, le fait de naître et le fait de mourir, la misère et la douleur, la paresse, la faim et la soif, la honte, la crainte, le malheur, la désolation et l'horreur. Je vais donc te dire comment délivrer l'âme de ces liens. Sans la pratique du yoga, comment la connaissance pourrait-elle assurer la libération de l'âme? Inversement, comment la pratique, seule, non étayée de connaissance, assurait-elle cette libération?
Nous venons d'entendre un extrait des Upanishads du yoga. C'est-à-dire que vous avez parlé du Yoga Sutra. On a, dès les Upanishads, les textes fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie indienne, une référence au yoga comme étant une manière, une voie à suivre pour délivrer l'âme de ces liens. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la recherche d'un bien-être, mais au contraire de la délivrance, délivrer l'âme de son existence terrestre.
Oui. Je vais répondre à votre question, mais d'abord un petit point de chronologie. Oui. Quand vous dites que ce sont les Upanishads du yoga, il faut vous rendre compte que ces textes, le mot Upanishad, il n'y a pas de copyright. Mm-hmm. Ça veut dire que des gens, y compris nous-mêmes aujourd'hui, nous pourrions composer des Upanishads. Mm-hmm. Donc les Upanishads du yoga sont bien postérieurs au yoga du Yoga Sutra. Le mot Upanishad ne veut pas du tout dire qu'on est dans le Veda. Ça veut dire que ce sont des textes qui ont une certaine forme.
Le Veda, qui est le texte originel.
Oui, enfin, ouais. Qui est le texte originel
présenté comme
pour
tel.
Certains. Mm-hmm. Pas pour tous, notamment pas forcément pour le Yoga Sutra. Le Yoga Sutra ne connaît pas le Veda, ne le connaît pas, ne le reconnaît pas, l'ignore parfaitement. Ce qu'on a entendu là, c'est le moment où les brahmanes, c'est-à-dire les intellectuels, certains intellectuels qui avaient le monopole de l'expression en sanskrit, c'est-à-dire la langue de la connaissance en Asie du Sud, eh bien, ils étaient des hommes de la parole. Le yoga, c'était essentiellement la voie du silence, la voie du silence intérieur. Le yoga disait non au monde. On fermait les yeux, c'était le yoga, et on se taisait. De l'autre côté, vous aviez les brahmanes. Les brahmanes, c'était le oui au monde. Le monde, un monde particulièrement attirant, un monde fascinant, merveilleux. Il disait oui au monde et il mettait par-dessus tout, au sommet, il mettait la parole. Évidemment, la parole sanscrite. Un jour, les gens du silence ont rencontré les gens de la parole. Les gens du sanscrit ont rencontré ceux qui étaient du côté du silence. Le résultat de cette symbiose, ça a été un des textes que nous avons entendu, c'est-à-dire le fait que les brahmanes ont mis la main sur le yoga. Ils ont brahmanisé le yoga. Le Yoga Sutra est juste à la charnière. C'est un texte qui est en sanskrit, donc un texte qui est du côté des brahmanes. C'est certainement pas le premier texte de yoga, ou c'est pas le premier enseignement de yoga, mais c'est le premier texte de yoga que nous connaissons et qui est connu dans la tradition comme étant le texte fondateur du yoga brahmanisé. Brahmanisé. Or, brahmanisé, ça veut dire sanskrit, ça veut dire aussi un certain nombre de philosophies, le sankhya, qui sont à l'intérieur de ce discours brahmanique. Et en même temps, vous retrouvez les traces de l'origine pré-brahmanique du yoga. Par exemple, des phrases que vous allez retrouver également dans le bouddhisme, voyez, qui, lui, n'a rien à voir originellement avec le monde du Brahman. En fait, vous voyez, le Yoga Sutra, c'est la confluence de deux fleuves. Un fleuve de silence et un fleuve de parole. Un fleuve de silence intérieur avec un refus du monde, la volonté de mettre un terme à l'expérience humaine, la volonté de stériliser le corps pour l'éternité. Et le yoga, c'est un suicide pour l'éternité, mais au profit de l'esprit, parce que c'est un suicide du corps. Bien sûr, un suicide du corps. Ça serait simple de mettre un terme.
Oui, sinon la solution radicale est accessible.
Voilà.
Oui.
Mais malheureusement, vous passeriez par la porte et vous rentreriez par la fenêtre. Là, ce qu'ils veulent, c'est mettre un terme à l'expérience d'un corps humain au profit d'un esprit qu'on l'appelle ainsi ou qu'on l'appelle autrement. Dans le texte que vous citiez, il était question d'Atman Brahman. Le Yoga Sutra ne connaît pas l'Atman Brahman, connaît une entité spirituelle. Et c'est un texte de spiritualité, avec une forte opposition entre le corps, qui est la source de tous les maux, en particulier les désirs qui sont liés au corps. Si vous mesurez cela, vous comparez cela évidemment avec le yoga actuel, vous voyez, on est exactement à l'opposé. Mmh. Eux, anciennement, ils voulaient mettre un terme au corps. Le corps, c'était l'ennemi. Ils voulaient non pas conserver ce corps, mais mettre un terme à ce corps, mettre un terme à toute cette expérience humaine. Pas du tout être en bonne santé, avec un visage rayonnant, la jeunesse. Non, non.
Alors, il y a différentes façons quand même d'essayer de surmonter la douleur corporelle. Y mettre un terme, oui, sans tuer l'âme pour autant, relève, oui, sans doute d'un art, et on y reviendra. Mais on peut aussi tendre vers une forme d'insensibilisation à la douleur. C'est ce que proposent certains fakirs. En tout cas, je vous propose d'écouter le spectacle de Joe Clemendor où intervient Yvon Va, le fakir. C'était en 1959.
Je ne suis pas un fakir au sens propre du mot, mais je suis en réalité romancier, poète, musicien, compositeur de musique. Malheureusement, je suis né infirme, paralysé des deux jambes. Les 12 premières années de mon existence, je ne dois qu'à l'éducation de ma volonté par les principes du fakirisme de marcher à peu près normalement maintenant et d'avoir une existence comme les autres. Et c'est pour persuader mes semblables de la puissance de la volonté dans la vie que je me permets chaque jour ou chaque matinée de présenter ces expériences un peu invraisemblables au public. J'espère que vous le comprendrez, que vous ne m'en voudrez pas de faire battre un peu vite votre cœur, car soyez persuadés qu'en aucun cas je vais souffrir, tout se passe grâce à ma volonté. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît, messieurs. J'ai sur ma table un certain nombre de tessons de bouteilles, mais j'ai également une bouteille et un marteau, et je vais demander à l'un de ces messieurs de bien vouloir la briser, afin que vous ayez la certitude que le verre que j'emploie coupe réellement et n'a subi aucune préparation. S'il vous plaît. Il a du muscle. Je parachève le travail de monsieur. Je vais vous demander de vous approcher, d'enlever de mon dos les tessons de bouteilles qui doivent y rester plantés. Vous me chatouillez, monsieur. Je vous remercie.
Mais Michel Angot, le fakir, peut être considéré comme un avatar dégénéré du yogin qui insisterait sur le caractère sensationnel,
oui,
de la maîtrise du corps.
Là, vous avez fait un bond extraordinaire dans le temps, dans l'espace et dans la qualité des gens. Car les textes dont nous parlions tout à l'heure, c'était des textes d'une toute petite élite.
Exactement, c'est la dimension élitiste élite. Du yoga.
Oui, c'est c'était, non, pas du yoga, élitiste du sanskrit. Mmh. C'était réservé à ceux qui, par statut, c'est-à-dire peut-être quantitativement moins d'1% d'une population donnée, pouvaient, par statut et non pas par volonté, apprendre le sanskrit après une bonne vingtaine d'années de travail. Donc vous voyez, une toute petite élite parfaitement ignorée du reste de la population, ces gens-là vivaient à part. Ils avaient une vie spécifique. Voilà. Donc faut ne pas imaginer que tout ça est connu. Il n'y a pas de public à un texte sanskrit. Voilà. Puis si vous allez à l'autre bout de l'échelle temporelle, avant que la présence britannique et, je dirais également, le fait qu'à un certain moment, l'esprit ait cessé de souffler en sanskrit. Le moment où les textes sanskrits, tout en demeurant inspirants, ont cessé d'être inspirés. Le moment où l'espérance spirituelle qu'il y avait dans les textes sanskrits comme le Yoga Sutra et dans d'autres textes, eh bien, cette espérance a disparu. C'est aussi le moment où des formes de yoga divers se sont répandues dans la population. Lentement, ça s'est diffusé.
Donc à quelle époque là ? De quelle époque parlez-vous ?
Ça s'est fait par étapes. Il y a d'abord eu la création d'un, je viens à votre question, il y a eu d'abord la création d'un deuxième type de yoga. Un yoga qui conjuguait le oui et le non. Le oui, c'était le oui au monde. Et le yoga, c'était d'abord le non au monde. Mais à partir, grossièrement pour nos auditeurs, disons au début du deuxième millénaire, vers le 10e, 11e siècle, un autre type de yoga naît. Se développent des gens nouveaux, pas forcément des brahmanes, souvent des brahmanes, toujours des érudits, on n'est pas encore dans la population, mais ceux-là, ils disent, ils cherchent la libération dans cette vie. Pas, voyez, ils ne veulent pas mettre un terme, ils veulent mettre un terme à la situation de souffrance dans cette vie. Ils prétendent qu'il est possible d'être libéré ici-bas.
Libéré de la souffrance.
Libéré de la souffrance, d'être quasiment divinisé. La distance.
Ce qui est assez proche de ce que proposent les stoïciens, pour le coup, en Occident, bien avant.
Oui, oui, mais je préfère laisser les comparaisons.
Mais c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres manières d'accéder à cette forme de libération ici-bas, et par une certaine pratique de la philosophie.
Quand ils entendent libération, vous voyez, ça veut dire que l'homme a eu accès à sa condition, je dirais, divine. Dans leur esprit, on ne naît pas homme. On ne naît pas homme. On le devient. On le devient. On le devient, et justement, on le devient en étant un être parfaitement spirituel. Ce qu'ils appellent Purusha dans le Yoga Sutra. Purusha veut dire homme. Mais pas homme, pas le petit homme, pas celui qui vous parle, qui est assis et qui joue les trisotins. Mais l'homme parfaitement spirituel. Voilà, vous voyez. Alors, cette libération, c'est l'accès à la condition divine. Dans cette vie, une sorte d'esprit qui habite le corps et qui en même temps est capable de se connecter à Dieu. C'est le deuxième sens du mot yoga. Le premier sens du mot yoga, anciennement, c'était... Dans Yoga Sutra, c'est pas du tout l'union, l'unité comme on entend, c'est la mise au repos du mental. Dans le deuxième type de yoga, appelons-le tantrique, c'est un mot qui est connu, ce type de yoga, c'est justement cette union, ne former qu'un avec Dieu. Le yoga, c'est le moyen pour accéder à la condition divine, et en particulier pour accéder au pouvoir divin.
Mais de quel Dieu s'agit-il ici? Parce qu'on n'est pas dans le monothéisme.
Vous savez, cette notion de monothéisme et de polythéisme en Asie du Sud n'a pas grand sens. À la condition divine. C'est une condition divine. Admettons que Vishnu, Shiva sont des dieux. Ils ont des pouvoirs. Les mêmes pouvoirs qu'auront les yogins quand ils acquièrent cette capacité à vivre la divinité dans cette vie. Après, on verra, mais dans cette vie, ils acquièrent cette capacité. C'est ce qu'on a appelé les siddhis, les perfections. Qui sont les perfections? On les appelle aussi Aishvarya, mot qui est fabriqué sur le nom Ishvara, qui veut dire Dieu. Donc vous voyez, ils recherchent les pouvoirs, signes de leur divinité et signes qui sont arrivés dans cette vie au terme des possibilités qui sont dans l'homme, devenir Dieu. Voilà. C'est à partir de là qu'il y a eu une dégénérescence, pourrait-on dire. Les pouvoirs extraordinaires, qui étaient le signe d'un statut d'être, sont devenus ont été recherchés pour eux-mêmes. Ils ont été recherchés parce que ça donnait évidemment du pouvoir dans le monde.
On arrive au fakir,
voilà,
là, non ?
Voilà, tout à fait. Une anecdote, vous connaissez peut-être l'empereur moghol Akbar. Comme tous les empereurs moghols, c'est normal, dans ce pays-là, dans cette famille, il a plusieurs enfants, et le fils qui va survivre essaiera de tuer son père et essaiera de tuer ses frères. Le plus fort sera le moghol. De génération après génération, ça se passe ainsi. Donc, le fils de Akbar, Selim, essaye de lutter contre son père, qui, devenu âgé, quelque peu kakoshim, il voudrait le pousser. Voilà. Mais comment? Comment faire? Le moghol entend parler de ce que vous avez appelé les fakirs, qui est un terme musulman, mais il entend parler aussi des yogins avec leur pouvoir, et il s'intéresse au pouvoir des yogins, parce que ces pouvoirs du yogin, il veut les utiliser pour tuer son père. Il veut les utiliser, je dirais, du côté politique. Alors là, vous voyez, on est loin d'une espérance spirituelle. On est dans l'utilisation tout à fait horizontale, tout à fait terrestre, d'un certain nombre de pouvoirs pour acquérir le pouvoir qui est le pouvoir du roi. Oui, on est au niveau du moghol, mais au début du XVIIe siècle. Mais durant le XVIIe siècle, durant le XVIIIe siècle, les yogins, c'est ça que c'est devenu. Le yoga espérant spirituel du Yoga Sutra, c'est demeuré un texte. C'est le deuxième yoga, le yoga tantrique, qui lui est resté une pratique. Encore au XIXe siècle, par exemple, Brahmananda écrit en 1835, après avoir vécu 20 ans de vie ascétique, il écrit un livre où il commente un grand texte du yoga. Vous voyez, ça continue ce yoga érudit. Mais fondamentalement, au XVIIIe siècle, le yoga, ce sont des gens, des fakirs, ce sont des gens qui font peur, ce sont des gens qui travaillent contre les Anglais. Il y a des armées de yogins qui affrontent l'armée britannique, puis ensuite qui se vendent à l'armée britannique et qui sont utilisés par les Britanniques pour leur conquête des Indes. Vous voyez, donc ils sont vraiment c'est ça le yoga, vous voyez. Le yoga ou le yogin du XVIIIe siècle, c'est pas quelqu'un qui est dans la paix, c'est quelqu'un qui est dans la guerre.
Blue crystal fire, blue crystal fire, burn brightly in me, burn brightly in me, in me, my love. Sunshine, smooth singing sunshine, wrap your blanket round me, wrap your blanket round me, round me,
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est Robbie Bachaud, Blue Crystal Fire, dans le cadre de cette semaine consacrée à la philosophie du sport. C'est le dernier temps aujourd'hui. Et c'est de yoga que nous parlons, yoga qui n'est pas un sport. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre grâce à Michel Angot, qui est grammairien et philologue, qui a enseigné le sanskrit et la littérature sanskrite à l'université de Paris 10 Nanterre, et à qui l'on doit une édition, une traduction et une présentation du Yoga Sutra de Patanjali aux éditions Les Belles Lettres. Away my love. Deep within the forest, deep within the forest.
Puisse Dieu, nous que les attributs du mental enchaînent par eux-mêmes, nous libérer. Lui qui est un océan de compassion. Nous sommes des parties de lui. Puisse-t-il, nous qui sommes misérables, nous libérer en brûlant par jeu le lien des gunas. Cet océan de lait qu'est le commentaire du Yoga Sutra forme un trésor de connaissances. Vedavyasa, le roi des sages, y a puisé avec son intelligence. C'est l'ambroisie où les grands yogins peuvent s'abreuver. Pour que cette ambroisie puisse être barattée par les dieux sur terre, eux qui sont des connaisseurs de connaissances, le plus lourd et sage des bâtons à barater est offert ici, tel le mont Madara, sous forme de Vartika. Vedayasa a dit là l'essence de la signification de tous les Védas, sous prétexte d'énoncer le yoga basiya. Voilà le chemin des chercheurs de délivrance. Comme le Gange et tous les autres fleuves sont présents dans toutes les parties de l'océan, le Samkhya et toutes les autres écoles sont présents totalement dans les parties de ce traité.
Ce chemin des chercheurs de délivrance est commenté par Vijnana Bhiksu dans le texte que l'on vient d'entendre. Alors Michel Angot, je me permets de révéler que lorsqu'on a préparé cette émission, on vous a dit qu'il y a des textes qui étaient lus par un comédien. Vous étiez contre le fait que ces textes soient lus par un comédien.
Quoique j'ai publié une traduction, je ne peux pas dire que je sois très favorable aux traductions parce que cela induit, là vous voyez on revient au texte sanskrit.
Oui justement.
Cela induit dans l'esprit des auditeurs l'idée que ces textes seraient d'abord fondateurs par leur signification. Or ça c'est faux. Les textes ne sont pas fondateurs par leur signification d'abord. Ils ont une signification, et cette signification, on parle là des sutras, on ne parle pas de cette œuvre qu'on vient d'entendre, qui date du XVIe siècle, qui est donc tardive. Mais les textes fondateurs, vous avez parlé du Yoga Sutra, ou il y a d'autres textes de cette sorte, ces autres textes ont d'abord une valeur sonore. Un texte, comme celui qu'est le Yoga Sutra, ou d'autres, sont d'abord appris par cœur. Ils sont appris par cœur pour être dits. Car on imagine que les textes au sanskrit ont une valeur pragmatique. C'est-à-dire qu'ils ont, par leur sonorité, un effet sur la physiologie. Il n'y a pas l'idée que le sens du texte, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le sens du texte? Que les mots désignent, le niveau objectif, serait le plus puissant, serait fondateur. Ce qui est fondateur, c'est le son. On est dans une civilisation qui est phonocentrée. Ce phonocentrisme de cette culture fait que les gens, les brahmanes, les ascètes divers qui peuvent connaître le Yoga Sutra ou un autre texte, le connaissent d'abord par le son. Ils le disent, ils le chantent.
Vous pouvez nous en donner un exemple au risque de vous faire passer pour un fakir qui est dans le spectacle?
Non, je vais vous réciter par exemple, voilà, ce que j'ai devant les yeux, c'est un extrait de la Hatha Pradipika. Je suis en train de traduire et d'expliquer ce texte qui est un grand classique du yoga deuxième manière. Hein. Et c'est un vers, magnifique vers, difficile. Je ne veux pas vous donner des noms techniques, mais les connaisseurs, s'il y en a quelques-uns, apprécieront. Ça s'appelle Shardula Vikriditam, le jeu du tigre. Un vers de 4 fois 19 syllabes, récité, chanté par le yogin. D'abord, vous voyez, c'est ça qu'il va avoir dans sa tête. Alpandvaramarandagalta vivaram natutanita yatam sangyango mayasandarinta mamalalantim nishe sashantu nitam, etc. Donc, tous les textes sanscrits du Yoga Sutra à cette Hatha Pratipika sont d'abord chantés. On attend que ce texte, que les sons du texte qui sont déposés, ils ne sont pas chantés pour, hein, ils sont chantés pour soi, ils sont chantés en soi, psalmodiés, mais ce sont tous des vers d'une extrême sophistication.
Donc c'est plus une question de rythme et de son que de contenu.
Oui,
mais pourtant, n'importe quel texte ne ferait pas l'affaire.
Ah, bien sûr.
Sinon,
que
il y aurait,
ça
y a quand même
dire,
un corpus théorique derrière tout ça.
Ça veut dire qu'il y a une grande, derrière tout ça, il y a un travail sur le son qui est fondamental en sanskrit. Vous voyez, on est, je vous le disais, dans une culture phonocentrée. Ce sont des gens qui, d'abord, produisent non pas des idéologies, non pas de la doctrine, ils produisent de la musique chantée, de la musique sonore. Hein, là, on est dans une expérience qui est assez comparable à celle que quand vous allez écouter Callas à l'opéra. Vous voyez, Callas chante, on n'y comprend rien. Parce que c'est de l'opéra, on n'y comprend rien.
Mais c'est beau, émouvant, ça parle, n'est-ce pas?
Alors, eux, ils ont travaillé de manière intense, les Einstein de l'Asie du Sud, ils ont travaillé de manière intense sur cette dimension sonore, quel effet le son produit sur la physiologie. C'est ça, un texte sanskrit. Et c'est comme ça qu'on apprenait le Yoga Sutra. Vous voyez, le Yoga Sutra ou la Hatha Pratipika, ce n'est pas un texte où on se met dans un asana, etc. Tout ça, c'est...
Asana, c'est une posture.
Une posture, oui, excusez-moi. Non, ça, c'est tout à fait secondaire. C'est d'abord une expérience sonore.
Mais alors, quel lien entre cette expérience sonore et la quête de la délivrance, pour reprendre le sens du texte?
Parce qu'il pense, en effet, que, vous voyez, le son, pas n'importe quel son, pas chanter n'importe comment, pas réciter n'importe comment. Le son est une des voies directes vers là-haut. Vous voyez, hein, une anecdote. Dans un Ramayana du Sud, on raconte, le Ramayana c'est un texte épique, il y en a plusieurs, il y a le Ramayana sanskrit et puis il y a d'autres Ramayana. Donc dans un Ramayana du Sud, on raconte que l'armée du roi Rama va construire un pont pour joindre l'île où est tenue prisonnière l'épouse du roi Rama, la belle Sita, et le continent. Alors le Rama dispose d'une armée de singes et d'ours, et tous les ours et tous les singes prennent des pierres. Les grands singes prennent des grandes pierres, les moyens singes prennent des moyennes pierres, et les petits singes prennent des petites pierres, et tous balancent ces pierres dans l'océan. Et ils construisent une sorte de pont. Ah, j'ai oublié l'essentiel. En même temps qu'ils disent, vous voyez, qu'ils jettent leurs pierres, ils murmurent le nom de Rama. Rama, c'est-à-dire le nom du roi. Arrive Rama, lui-même. Rama, incarnation de Vishnu. Incarnation de Dieu, vous voyez, Dieu sur terre. Et lui, qui est Dieu, il prend une pierre digne de son statut, c'est-à-dire, puis il jette la pierre. Et là, la pierre, elle fait ce que lamentablement toutes les pierres font, c'est-à-dire qu'elle tombe au fond de la mer. Alors le grand Rama est un petit peu gêné de la situation, il se tourne vers son ministre, et le ministre lui répond de manière sèche, mais tout à fait remarquable, « Seigneur, c'est ton nom qui est puissant, pas toi !» Et il avait oublié que ce n'était pas Rama qui est puissant, c'est le son Rama qui est puissant. Donc ça, c'est vraiment, à travers cette anecdote, c'est vraiment un moyen de comprendre ce qui est au cœur, ce qui est l'enjeu des textes sanskrits, c'est de mettre des sons qui, mis ensemble comme une symphonie vocale, voyez, vont occasionner pour celui qui les dit, pas pour celui qui les entend, Mais pour celui qui les dit, qui les dit par cœur, il ne faut pas que ça vienne d'un texte écrit, parce que sinon ça vient de l'extérieur. Et donc ça doit venir de l'intérieur, donc ça doit avoir été déposé à l'intérieur, puis ensuite ça doit sortir. Et cette expérience intérieure d'un son est susceptible de disposer le corps, l'esprit, à ensuite à un niveau plus objectif qui, lui, est donné par la signification du texte. Mais là, même la signification du texte, ça ne se passe pas comme on le croit. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai la Hatha Pradipika. Beaucoup de gens prétendent faire du Hatha Yoga. Alors, ils prennent un livre. Alors, il y a une malheureuse traduction qui n'est pas pire que les autres, qui n'est pas non plus très bonne, mais qui n'est pas pire que les autres. Et voilà, ils utilisent le sens objectif, ce qu'on peut traduire. Vous pouvez pas traduire les sons, n'est-ce pas ? Ce que vous pouvez traduire, c'est forcément les significations. Et puis, ils mettent en pratique, vous voyez, hein, on lit ça, mettre un pied, voilà, bon, très bien. Mais c'est pas du tout comme ça qu'ils faisaient. Eux, vous voyez, ils commençaient par réciter. Ensuite, il y avait une étude exhaustive du texte, comme j'ai fait dans le Yoga Sutra, dans la traduction, c'est-à-dire une étude systématique, mot par mot, grammaticale. Vous voyez, on est chez des érudits. Hein, voilà. Et une fois que cela avait été fait, à ce moment-là, il y avait un phénomène de visualisation. On visualisait à l'intérieur du mental ce qui était signifiant. Et ensuite, le corps prenait, vous voyez, une fois qu'on avait le modèle, en quelque sorte, à l'intérieur...
Forme d'image.
Voilà, une forme d'image. Il y avait donc ce modèle, si nous prenons, par exemple, une position, vous voyez, une position du corps, un asana du corps, et ou un état de physiologie, vous voyez, donc on met une physiologie idéale dans la tête, et ensuite, eh bien, cette physiologie idéale, cette asana idéale, il va être incarné. Donc, le corps, c'est ce qui va suivre. Et bien entendu, il y a une distance entre l'idéal et le réel, parce que vous êtes plus ou moins souple, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez le chemin qui est fait.
Oui, ce n'est pas commencer par faire une posture qui va nous mettre dans un certain esprit, un état d'esprit qui ensuite va nous apporter la paix.
C'est toujours le plus haut qui est chargé de mettre en forme le plus bas, et non pas l'inverse.
Comment, selon vous, cette dénaturation du yoga s'est-elle opérée ? Comment est-on passé d'une volonté de se délivrer du corps, vous avez parlé quand même du suicide du corps, ce qui est un terme extrêmement fort, à une dimension plus hygiénique, qui consiste à prendre soin de son corps pour vivre mieux.
Si on dit suicide du corps, ça c'est un angle. Mais vous pouvez dire assomption de l'esprit. C'est la même chose. Simplement, au lieu de regarder par ce que vous abandonnez...
Le corps n'est que l'abri de l'âme dans cette
conception. C'est l'abri forcé. Hein,
ou la prison, alors.
C'est une prison temporaire, mais une prison, si vous voulez. Donc on peut le voir... On peut voir ce dont on est délivré, et puis on peut voir l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté positif. Ils ne veulent pas se suicider.
Mais encore une fois, pourquoi ne veulent-ils pas se suicider, justement ? Si le but est de mettre fin à la vie physique.
Parce que si vous vous suicidez dans cette vie, vous revenez dans la suivante.
Et la transmigration des âmes.
C'est ça.
Donc l'âme va se réincarner dans un autre corps.
Vous voyez, c'est le karman. Parce que la transmigration, elle n'existe pas. Seule, elle est toujours associée, ce qui n'existe pas en Occident. Vous voyez, parfois on parle de transmigration chez Platon, etc. Mais c'est pas ça. Dans les textes sanscrits, ce qui existe, avec bien des variantes, c'est quelque chose qui est double. C'est la maturation de l'acte. C'est la maturation de l'acte qui est fondamentale. La transmigration de l'âme, c'est quelque chose qui est secondaire, qui est conséquent. Mais les actes, quels qu'ils soient, les bons, les mauvais, etc., laissent toujours un dépôt. Et c'est ce dépôt qui devient la graine de la vie future. Donc vous voyez, quand on dit stériliser, c'est ça. Vous voyez, c'est stériliser la graine, les graines que nous portons, parce que nous avons agi. Alors nous agissons.
Il y a une dimension morale là qui est très très forte.
Pas du tout.
C'est les actions que nous aurons commises au cours de notre vie qui vont déterminer le lieu où notre âme va ensuite se réincarner.
Oui, mais il n'y a pas de morale là-dedans. C'est mécanique.
C'est mécanique. Si les actions étaient mauvaises, la réincarnation sera moins avantageuse que si.
C'est ça.
Oui, c'est assez moral quand même. C'est la rétribution des actions en fonction de.
Oui, mais disons que il n'y a pas de juge, il n'y a pas ah tu as fait une mauvaise action, tu vas être puni. Non, c'est parfaitement mécanique. C'est, vous voyez, c'est oui, mécanique. Hein. La nature du dépôt occasionne une graine, voilà, disons qu'un noyau d'abricot donne naissance à un abricot et pas à un pommier.
Et alors, idéalement, voilà. Dans quel corps l'âme des yogins doit-elle s'incarner, ou dans quel corps aspire-t-il à se être réincarné?
Mais justement, il aspire à ne pas
à ne plus l'être. Voilà. Donc aller dans le monde des âmes.
À être voilà, à être ce qu'il est déjà, c'est-à-dire si on prend le Yoga Sutra ou d'autres textes, parce que là on va du coq à l'âne, dans d'autres textes Purusha, Atman, etc. Il aspire à n'être que ce qu'il est et non pas à être accompagné de ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire vous voyez cet éphémère qu'est ce que nous pouvons voir, etc. Donc ça c'est le yoga élitiste, le yoga érudit. Mais je vous disais, ce yoga érudit, il a échappé aux érudits. Les gens, les yogins du 18e siècle, ce ne sont pas des brahmanes. C'est des pauvres types. Ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres qui ont appris quelques pouvoirs, quelques trucs, si vous voulez, et qui utilisent ces trucs pour leur satisfaction personnelle, pour vivre dans le monde.
Ce savoir des yogins leur a échappé et a atterri notamment dans la guitare de Georges Moustaki.
Les savoirs, alors nous avons la connaissance. La raison fut une aide, la raison est l'entrave. Quand nous avons dépassé les velléités, alors nous avons le pouvoir. L'effort fut une aide, l'effort est l'entrave.
Un grand merci à vous, Michel Angot, d'être venu nous parler du yoga, Yoga Sutra, aujourd'hui. Grâce à vous, les choses sont plus claires et nous savons, les yogins parmi nous, parmi les auditeurs, savent qu'ils ne font pas le yoga tel qu'il avait lieu à l'époque. Je renvoie en tout cas, si le corps vous en dit, chers auditeurs, à la lecture du Yoga Sutra de Patanjali, que vous avez traduit et présenté aux belles lettres dans un ouvrage magnifique. Michel Angot, encore merci à vous.
Merci.
Vous
merci
écoutez vous. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour, chère Géraldine.
Bonjour, Adèle. Bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de drogue, je crois.
Oui, je vous parle d'addiction. En fait, c'est un essai de Todd Meyers, La clinique et ailleurs, anthropologie et thérapeutique de l'addiction, qui vient de paraître aux éditions Vrin.
We are going. I'm going to try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel that I'm a man when I put the spark into my vein.
Entre juillet 2005 et mai 2008, Todd Meyers, professeur américain d'anthropologie, a conduit une étude dans un centre de désintoxication à Baltimore qui portait sur 12 adolescents dépendants aux opiacés. 12 adolescents aux histoires différentes, aux situations économiques, sociales et démographiques diverses qui, durant presque 3 ans, ont commencé une cure, l'ont abandonnée, y sont revenus, pour certains s'en sont sortis ou pour d'autres ont replongé. Fait de la matière de leurs témoignages, de ceux de leurs proches, des infirmiers et médecins, cet essai cependant soulève d'emblée un problème. comment donner un sens à la guérison alors que les mots sont insuffisants pour décrire l'expérience d'abord individuelle de la toxicomanie entre plaisir, honte ou douleur, et puis surtout comment donner un sens à la guérison quand le corps a été habitué à se rendre absent à lui-même. Alors évidemment, on ne peut pas lire ces pages passionnantes sans penser à Quand Guillem, plusieurs fois mentionné, et pour qui la santé c'est le silence des organes, car le silence, les absences, les disparitions sont précisément ce qui caractérise ces adolescents, allant de l'intérieur à l'extérieur du centre, ayant un pied dans le traitement et l'autre encore dans l'adduction. Et c'est aussi ce qui caractérise la démarche de Todd Meyers, qui tente de suivre chacun de ces parcours vacillants, qui tente de prendre en compte leur silence pour saisir une guérison qui ne se dit que dans l'intimité du sujet, et une guérison qui procède justement par l'absence, par un sevrage où l'on ne prend plus rien. Alors comment combler du manque par du manque? Comment combler du manque par une absence? Telle pourrait être la question que pose toute désintoxication, mais aussi toute guérison, qui n'a rien d'un retour à la normale, à un avant, qui n'a rien d'un rétablissement, mais qui est bien un nouvel état à atteindre, mais qui n'est pas encore là.
Merci Géraldine. Rappelez-nous le titre du livre.
C'est La clinique et ailleurs, anthropologie et thérapeutique de l'addiction, et c'est aux éditions Vrin, et c'est de Todd Meyers.
Merci beaucoup Géraldine. Merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, ainsi que cette semaine consacrée à la philosophie du sport. Cette semaine, ainsi que toutes les autres séries d'ailleurs, est intégralement réécoutable en ligne et téléchargeable. Vous pouvez la podcaster afin de l'installer sur votre ordinateur, votre lecteur MP3 et les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Ariane Mintz qui a préparé cette émission, Pierre Brossard, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Géraldine Mosnay-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Élise Leu à la prise de son aujourd'hui. J'en profite pour annoncer que nous sommes partenaires de Philosophie Magazine qui propose ce mois-ci son numéro d'octobre 2016, un dossier intitulé « Comment surmonter ses échecs » avec Charles Pépin, auteur des Vertus de l'échec, qui vient de publier son dernier livre, ainsi qu'un cahier central sur Claude Lévi-Strauss, « Qui sont les barbares ?» présenté par Roger Paul Droit et Patrice Maniglier.